remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Aujourd'hui dans Remue Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8, nous vous rappelons que nous vous proposons pendant tout l'été des rediffusions de nos meilleures émissions, de celles qui nous paraissent les plus importantes. Et donc de 17h à 18h30, c'est Remue Ménage. 18h30, 19h, c'est une page de musique et 19h, vous retrouvez Marjolaine. Aujourd'hui, nous accueillons Anne de Castello, journaliste sur Espace 2, qui est allée Noël dernier à Jéricho et Gaza.
Merci d'être
Bonsoir.
Là. Alors, elle va nous raconter ses impressions, ce qu'elle est allée faire là-bas en tant que journaliste, puisque c'est à ce titre-là qu'elle se déplaçait dans cette région du monde. On va découvrir par son regard un univers complexe, celui d'Israël, et un autre univers, celui des territoires occupés. Et comment, quand on a envie de parler de paix, puisque c'est de cela qu'avait envie de parler Anne de Castello, eh bien, comment on fait se rencontrer ces communautés qui ont, on le sait bien, des grandes difficultés à créer aujourd'hui une paix durable, même si beaucoup, beaucoup d'entre eux aujourd'hui ont envie que cette paix enfin se réalise. Alors tout de suite, on part en musique d'abord dans cette région du monde avec une femme qui nous chante une très, très belle mélopée, une femme palestinienne.
Chaque jeune, depuis l'âge qu'il va à l'école élémentaire, pense déjà à l'âge de 18 ans, qu'il va faire l'armée, qu'il va faire 3 années de service militaire, pour être réserviste jusqu'à l'âge de 54 ans. C'est dur, c'est lourd, vous n'avez pas ça. Vous, vous avez par exemple en Suisse, vous avez une armée, vous avez le service militaire, mais c'est un peu des soldats de chocolat.
Alors Anne de Castello, tout de suite, vous nous mettez dans l'atmosphère des rencontres que vous avez faites dans ces territoires occupés et en Israël. Ici, nous avons entendu qui ?
Ici, nous avons entendu Joseph Al-Ghazi. En fait, je voulais commencer par lui, d'abord parce que c'est un homme absolument délicieux. Joseph a été secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme en Israël pendant de très nombreuses années. C'est un homme très actif. Il est journaliste dans un journal libéral qui s'appelle Haaretz. Il est juif, il est israélien bien sûr, mais il est né en Égypte, donc il parle arabe, gros avantage, parce que bien sûr, il peut entrer dans cette autre communauté, cette espèce de communauté ennemie qu'est devenue la communauté palestinienne pour bon nombre de gens. Alors que, bien entendu, vous imaginez en 45 ans de conflit, mais en 45 ans de liens, il s'est créé bien sûr pendant toute cette période aussi des liens. Alors c'était ces liens-là dont j'avais envie de parler, parce que l'image que nous avons de ce pays totalement déchiré, ce sont les images qui nous arrivent surtout par le biais de la télévision, ce sont les images d'attentats, ce sont les images surtout des extrémistes des deux camps, et ils sont nombreux, ils sont là, ils sont bien là, ils ne représentent en fait que 10% dans chaque camp. Il y a de chaque côté une droite qui est prête à tout pour faire passer ses opinions, et puis il y a des tas d'autres gens qui ont envie de paix, qui en ont assez de cette situation, et qui maintenant on décide qu'il est temps de mettre fin aux hostilités. Et Joseph Al-Ghazi, bien, c'est l'un d'entre eux. Il a beaucoup d'amis palestiniens. Il m'a dit une chose très drôle. Il m'a dit, si seulement on pouvait mettre nos extrémistes, leurs extrémistes, ensemble dans un endroit et puis les oublier,
dans les poubelles
finalement, voilà, finalement, la paix pourrait enfin se faire. Et s'il représente bien sûr peut-être pas la majorité des gens, j'avais envie que ces gens-là, une fois, s'expriment un peu plus longuement que ceux à qui on donne la parole beaucoup plus largement et beaucoup plus spectaculairement, c'est-à-dire les autres, ceux qui veulent la guerre, qui veulent rester sur leur position.
Alors Anne, vous n'alliez pas là-bas par hasard, vous alliez envoyée par la radio Suisse romande, en l'occurrence par le programme culturel Espace 2. C'était un grand projet parce qu'il y avait aussi des représentants de l'information et des autres émissions de la première chaîne de la radio Suisse romande. Mais vous aviez une idée principale, essentielle, que vous venez nous résumer un petit peu, auquel vous aviez donné un titre oui, que je trouve très beau et très intéressant, « Les autres poignées de main ».
Exactement. Les autres poignées de main, il y a eu bien sûr celle du 13 septembre, historique, entre Arafat et Rabin, bien sûr. Mais au-delà de tout cela, qu'est-ce que la réalité ? Quand on arrive en Israël, on pourrait imaginer que c'est un pays complètement schizophrénique. Parce que d'une part, il y a la vie. Enfin, il y a, si l'on va à Tel Aviv, on pourrait très bien se croire au bord d'une plage comme une autre, avec des gens en vacances, avec une vie tout à fait normale, à part que les gens sont totalement excités. On sent qu'il y a tout de même une tension. Vous faites votre marché en Israël. Vous voyez ce que vous avez envie de voir. Et surtout, ce que vous voyez surtout ne correspond absolument pas, d'une part, à vos préjugés, ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que tout a un symbole, tout a une signification, il faut creuser. Vous pouvez passer complètement à côté de ce pays, des deux communautés. C'est-à-dire vous pouvez très bien aller en Israël sans voir un seul Palestinien, quasiment. Si vous allez au bord de la mer Rouge ou dans des endroits de vacances. D'ailleurs, ça m'a frappé quand je suis revenue de mon séjour là-bas, où j'avais vraiment vécu des choses tellement intense, je tombe sur un portrait d'Israël offert par l'Association des hôteliers et l'Office du tourisme israélien, qui était distribué abondamment en Suisse. Israël, pays de vacances, terre de séduction. Enfin, on peut totalement faire abstraction du conflit, si on le veut. Ou bien voir ce que l'on a envie de voir.
Donc vraiment, on peut vivre 3 semaines en Israël sans
on
rien
peut,
voir.
On peut, tout à fait. Sauf que, bien sûr, même si l'on est au bord de la mer Rouge et que, je ne sais pas, on va dans un espèce de complexe où vous pouvez faire des espèces de cures de thalassothérapie avec de la boue, etc. Bon, bah, c'est entre des barbelés, puis vous pouvez prendre votre petit déjeuner à côté de soldats israéliens. La soldatesque, enfin les soldats
présence
sont partout,
de l'armée,
voilà. Mais enfin, bon, on s'y habitue d'abord, ils sont là, ils sont armés jusqu'aux dents, mais bon, ils sont comme tout le monde, ils vont, ils viennent, ils sont chaleureux, ils écoutent leur radio, etc. Mais on peut très bien ne pas voir tout cela, ou on peut avoir une image totalement déformée. Je veux dire, c'est un pays où il faut avoir quand même quelques clés pour comprendre ce qui se passe et surtout être ouvert. Et ne pas coller les images que l'on a décidé de coller parce qu'elles ne correspondent plus à rien une fois qu'on est là-bas. Et j'ai intitulé aussi ces autres poignées de main. Alors là, je suis très très optimiste, bien sûr, parce que j'ai voulu montrer un peu ce qu'on ne montre pas, c'est-à-dire tous ces gens qui vivent ensemble depuis longtemps, qui se détestent, qui luttent, mais qui aussi ont des solidarités qui finissent par presque se ressembler quelque part. Et d'un côté comme de l'autre, il y a comme une osmose qui s'est faite. Et je crois que c'est là, c'est pas quelque chose qui apparaît tout de suite, bien sûr. C'est si on creuse un petit peu, on se rend compte que, par exemple, côté palestinien et côté des femmes, on va en parler bien sûr, elles voient que elles voient la différence entre les pays arabes, ce qui se passe dans cette région, et puis le tout petit microcosme, parce que c'est minuscule Israël, que représente une espèce de monde occidental américanisé, presque très américanisé qu'est Israël, mais où il y a une sorte aussi de liberté, de démocratie, qui fait que ça... Bon, elles se posent des questions aussi. Dans quel monde vont-elles vivre? Qu'est-ce qu'elles sont exactement? Il y a des femmes palestiniennes et des femmes israéliennes qui ont des contacts depuis très très longtemps ensemble, même si ces contacts sont faussés, même s'ils sont interrompus. Chaque fois qu'il y a, bien sûr, dans l'histoire, un événement un peu plus tragique, elles rompent leurs liens, mais elles se revoient de nouveau. C'est tous ces gens-là que j'avais envie de rencontrer. Ce sont, par exemple, ces deux hommes qui m'ont alors vraiment... tout à fait impressionné, un homme qui s'appelle Victor Siegelman, qui est un journaliste juif, et puis un autre qui s'appelle Ziad Abou Ziad, qui est un journaliste palestinien, qui fait d'ailleurs partie de la délégation palestinienne d'Arafat, donc qui œuvre en ce moment pour qui négocie pour la paix. Ils sont ensemble dans Jérusalem Est, donc c'est la partie palestinienne de Jérusalem. Là, on va peut-être y revenir parce que c'est très complexe là-bas. On passe une ligne imaginaire, une ligne qui n'existe pas et on est dans un autre monde. Hein. Les règles ont totalement changé, il faut le savoir. Donc ils sont à Jérusalem Est, c'est un choix. Et là, ils sont en train de créer un journal, enfin une revue, le premier numéro va d'ailleurs sortir ces jours-ci, ensemble avec une rédaction palestinienne et une rédaction israélienne. Et lorsque je suis allée les interviewer, il venait de se passer une chose assez épouvantable. Un des grands poètes palestiniens, qui est donc membre de la rédaction et dont les œuvres vont être publiées dans le premier numéro de la revue, eh bien son fils a été tué à la sortie du lycée à 15 ans par une balle israélienne. Il y a eu, les enfants sont mis à tirer des pierres, enfin les ados sont mis à tirer des pierres. Les soldats ont paniqué, parce qu'on parlera aussi de cette espèce de paranoïa qui pèse sur tout le pays. Ils ont paniqué, ils ont tiré, voilà. Et le jeune homme est mort. Et le père, donc il venait d'apprendre cela, et le père a dit « ça ne changera rien à ma collaboration ». Voilà, mon fils est une victime de cette guerre absurde, mais ça ne changera rien, je veux que ce journal existe, je veux qu'on continue de travailler ensemble. Ça, ce sont des choses dont la presse parle peu, vous êtes d'accord?
Mais à votre avis, Anne, pourquoi justement? Parce que c'est quand même incroyable qu'on ne donne pas la parole.
Mais parce que c'est pas d'abord, ce n'est pas spectaculaire, c'est bien plus spectaculaire de voir... Des l'intifada, enfin des lancements, ça existe aussi. Ce serait idiot de dire que tout d'un coup de tomber dans l'autre versant et de se dire qu'il y a des choses fabuleuses qui se passent dont personne ne parle. Mais elles y sont, elles se passent. Qui a parlé de cela? Moi, c'est parce que j'ai fait une enquête avant que j'avais envie de suivre ces pistes et que, bien entendu, quand on commence à être dans un autre circuit, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de quelqu'un qui vous parle de. Et voilà, vous êtes dans le circuit de la paix. Tout d'un coup, vous avez toutes les adresses, vous avez tous les gens, tout le monde se connaît et vous découvrez là un univers qui n'est pas dont les informations ne reflètent en rien cet univers-là. Cet univers-là est passé sous silence. Et c'est peut-être pour cela qu'en ce moment, enfin, ça va se débloquer. Et je compte beaucoup sur ces gens qui sont de plus en plus nombreux aussi pour que, une fois que alors que l'histoire fera apportera sa pierre, en fait, que les choses seront décidées en haut, eh bien, il se trouve qu'il y a toute une base qui est déjà prête. Voilà. عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من اللهب يا ساحة الأنوار كم عصفت فيها خيول الهول والرعب فالأرض فيها وجه مذبحة والجو أمطار.
Anne, est-ce que vous pourriez nous donner quelques impressions que vous avez eues très personnellement comme ça dans l'atmosphère du lieu, à la fois qui illustre peut-être Israël, un monde plus occidental, et puis les territoires occupés plus arabes du côté des Palestiniens?
Oui, tout à fait. J'ai parlé déjà tout à l'heure d'un petit peu schizophrénie. Enfin, je ne sais pas ce que les gens peuvent ressentir à l'écoute de ce mot. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus. Les impressions, elles sont, si on a les yeux ouverts et les oreilles ouvertes, c'est vraiment le pays où il faut aller parce que d'une minute à l'autre, vous changez sans cesse d'univers. C'est pour ça que je vous disais, abandonnez presque vos préjugés, essayez d'écouter, simplement de regarder et puis ensuite, vous ferez votre marché quoi, sur place. Je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est un gouverneur britannique en Palestine qui avait dit de Jérusalem, c'est la seule ville au monde où chacun peut choisir le siècle dans lequel il souhaite vivre et le Dieu qui lui convient. Parce que, comme je vous le disais,
beaucoup de religions, c'est trop...
Bien sûr, donc à Jérusalem, tout est symbolique, tout veut dire quelque chose. Le spectacle est dans la rue, tous les 10 pas, on a l'impression que quelqu'un s'est déguisé. Alors vous passez des popes au turban, aux coptes avec leur espèce de grande robe, des hassidim, qui sont les juifs orthodoxes, bonnets coiffés de fourrure, vous avez l'impression
avec
que vous
leur bouclette, là.
Vous êtes en Pologne, vous êtes totalement en Pologne. Les hommes en blanc, parce que ça c'est symbole de pureté, les militaires, que je vous l'ai dit, bardés d'armes qui sont là aussi à chaque coin de rue, les juifs à la kippa, et puis alors vous allez dans le quartier de Mea Sharim, là, vous croyez complètement rêver, vous êtes au Moyen-Âge. Chacun dans ce pays sait qui est l'autre. Je vais vous raconter une anecdote, j'ai eu 2 fois de suite un chauffeur de taxi palestinien, avec bien entendu plaque israélienne. Hein. Là, attention, hein, il faut faire bien attention à Jérusalem. Enfin, en Israël en particulier, les plaques de voiture, la couleur des plaques de voiture a toute une signification.
Alors, pour lui, certaines portes ou les
tout,
fermes.
Bien entendu, et comme je vous l'ai dit, Jérusalem est coupée en deux. Il y a d'un côté donc le côté palestinien et de l'autre le côté israélien. Mais il n'y a pas de frontière. C'est une frontière invisible, mais tout d'un coup, on sait qu'on l'a franchie. Alors notre hôtel était à Jérusalem-Est, donc côté palestinien, et il y a un monsieur qui s'occupe qui gère tous les taxis, à plaque israélienne, avec chauffeur palestinien, ce qui fait que là, toutes les portes sont ouvertes, puisqu'on peut être sur les deux mondes. Et lui, le hasard a fait que plusieurs fois de suite, j'ai eu ce chauffeur palestinien, un jeune homme, une trentaine d'années, très branché, pas du tout le palestinien comme vous l'imaginez. Enfin, au bout d'un moment, d'ailleurs, je lui dis... Écoutez, c'est inimaginable, mais quand je vous regarde avec vos petites lunettes et tout, on dirait que vous êtes juif. Il me dit, oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Et il me dit, d'ailleurs, tu sais, après on se tutoie bien sûr très vite dans ce pays, parce que les formules de politesse, tout ça, ça compte pas. Il y a une rudesse dans ce pays, on n'a pas le temps, hein, c'est un pays en guerre, on n'est pas là pour se faire des mamours, pour se tenir la porte, etc. Les choses sont très directes. Donc il me dit, tu sais, d'ailleurs, je vais m'amuser à Jérusalem Ouest. Je dis, mais t'as des amis alors? Il me dit, mais j'ai plein d'amis. Et d'ailleurs, je sors même avec des juifs. Tu as l'air de dire, c'est bien mieux.
Oh,
et puis, je dis, mais moi, ça ne m'arrange pas. Là, tu es en train de m'emmener à Gaza. Alors là, territoire occupé. Mais si on te prend pour un juif, alors on va être une cible de choix. Il me dit, non, mais ne t'inquiète pas. Dès qu'on aura passé la limite, enfin, dès qu'on sera en territoire palestinien et en zone occupée, moi, tout le monde sait que je suis palestinien. Je marche comme un palestinien, je parle comme un... Mais toute mon attitude corporelle fait... Tout le monde sait, on ne peut pas se tromper. Vous voyez, il y a des gens qui sont à cheval, et les jeunes, sur ces deux mondes. Ça, c'est aussi quelque chose dont on parle peu. Ça, c'est fascinant. Ouais. Le fait qu'il y ait des gens qui peuvent, comme ça, passer d'un monde à l'autre, qui s'adaptent, il n'est représentatif que de quoi ? Peut-être d'une génération montante. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des jeunes qui soient tout à fait dans les camps extrêmes, hein, des deux côtés. Ça, on l'a dit. On va essayer d'en faire abstraction aujourd'hui. Voilà. Voilà, on les laisse ensemble. De toute façon,
l'idée d'une terre pour deux peuples n'est pas si extravagante que personnes.
Je crois que là, maintenant, le mouvement de paix est irréversible parce que simplement, on ne peut pas continuer comme cela. Il y a une telle... C'est tellement la folie si la paix ne se fait pas. Tout le monde en a assez. Il y a des gens qui commercent entre eux. On n'en parle pas du tout, mais il y a par exemple une délocalisation de certaines petites industries israéliennes à Gaza, par exemple, où déjà il y a des tas de liens invisibles qui se sont tissés. Donc, je vous dis, 40 ans ensemble de cohabitation, même si c'est une cohabitation sanglante, une cohabitation même pas reconnue, puisque c'est seulement maintenant que Arafat reconnaît qu'Israël existe. Vous voyez, il se passe des tas de choses dans les gens du peuple, enfin les gens comme n'importe qui ont chacun quelqu'un qui connaît, qui a engagé, qui fait travailler. Enfin, voilà, c'est de tout cela au fond que je voulais parler. Et je vous le dis à nouveau, il faut écouter, il faut questionner, par exemple, de nouveau ce chauffeur de taxi israélien. Je lui dis, mais finalement, toi, tes clients, ce sont des juifs. Il me dit, bah oui, tout le temps. Et je lui dis, sauf quelques journalistes. Donc, comme je vous l'ai dit, la station de taxi est en face de l'hôtel et il n'y a que nous qui passons d'une communauté à l'autre sans arrêt. Mmh. Il y a les journalistes, très, très, très nombreux en Israël, parce que je crois que c'est un des pays, je crois que c'est le pays au monde où il y a le plus de correspondants de presse. Donc, c'est peut-être aussi pour cela qu'il faut trouver absolument des images spectaculaires. Mmh. C'est que tout le monde est un peu de surenchère. Hein. Il y a un peu de surenchère. Quoi, toi, tu as eu des coups de feu, mais moi aussi, je vais en avoir. Tu vois, c'est un peu comme ça.
Vous pouvez faire votre travail sans problème en tant que journaliste ?
Oui, absolument. Il faut bien sûr toutes les autorisations. Une fois qu'il faut expliquer ce qu'on vient faire dans le pays. Je vous l'ai dit, en Israël, il y a une certaine paranoïa et de part et d'autre. C'est-à-dire que tout le monde soupçonne tout le monde. Et comment dire ? Tout le monde vit dans la peur. Un attentat, ça peut se produire à n'importe quel moment. Tout peut être bouleversé en 5 minutes. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et par exemple, moi, le premier soir, j'avais donc loué une voiture, donc plaque israélienne, pour aller à Tel Aviv faire une série d'interviews. Je suis revenue, c'était tard le soir, et je devais donc passer en côté palestinien, Jérusalem-Est. Au fond, il y a 150 mètres à faire, hein, depuis une espèce d'autoroute. C'est tout à fait nouveau, une sorte de ligne verte. Ça s'appelle, donc c'était sur la ligne verte, pour les gens qui suivent un peu la politique comprendront ce que je veux dire, mais ça qui sépare la ville en deux. Et ils ont fait une espèce d'autoroute, c'est assez nouveau. Et il faut sortir de cette autoroute, enfin d'une bretelle, et hop, l'hôtel est là. C'est-à-dire, il y a 150 mètres à faire. Mais ces 150 mètres, même je connaissais des gens depuis très 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 longtemps qui habitent Jérusalem, qui sont là depuis 20 ans, quand je leur ai dit, mais venez donc me retrouver à des juifs, donc ils venaient donc me retrouver, ils m'avaient donné des adresses, donc des gens qui travaillent pour l'ACP, des gens très ouverts à cet hôtel. J'ai senti que pour eux c'était oh là là, mais c'est, comment on va faire, viens nous chercher, presque, c'était ça. Mmh. Et le soir, donc je me retrouve le premier soir, plaque israélienne, je me suis perdue, je sais pas, j'ai raté la bretelle, je me retrouve en plein Jérusalem Est le soir, femme, donc il y a plus que des hommes dans la rue, bien entendu. Et puis là, on se dit, je sais pas, peut-être qu'effectivement, on sortira un couteau, j'en sais rien, tout peut se passer, allons-y, vous devez bien sortir de la voiture. Hello, oui, c'est moi, je cherche mon hôtel, renseigne. Bon, il faut y aller, on est obligé de retrouver. Et puis, je me suis dit, je ne veux pas penser au risque, il ne m'arrivera rien. Je raconte l'anecdote à donc une amie que... juive qui habite donc Jérusalem-Ouest. Je lui dis, tu sais ce qui m'est arrivé hier soir là. Puis elle me dit, oh mais ne t'inquiète pas, de toute façon tout le monde voyait que t'étais touriste toi. Donc il y a, tout le monde sait qui est tout le monde. Et ce donc, pour en revenir à ce chauffeur de taxi, quand je lui ai dit, mais comment ça se passe quand tu as tes clients dans ton taxi ? Il me dit, mais je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Je suis absolument... D'ailleurs, quand les religieux, les comme vous disiez, avec les bouclettes et puis tout leur attirail, enfin leur manteau de fourrure et leur toque, etc. Je vous dis, il y a 40 degrés à l'ombre, mais on a l'impression qu'on est en Pologne ou en Sibérie. Donc, quand il les prend dans son taxi, il me dit, mais eux, de toute façon... Eux ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Vous savez que l'État d'Israël n'existera pour eux que lorsque le Messie viendra. Ouais. Donc l'État d'Israël laïque, enfin l'État d'Israël politique, ne les intéresse absolument pas. Ils ne font pas l'armée, ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, mais ils sont là. Et ils sont là, ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup de manifestations. Ils sont, voilà, donc ils sont là. Non, ça c'est les religieux. Attention, c'est très compliqué. Alors il me dit, mais avec eux, de toute façon, ils détestent les Israéliens, ils détestent les Palestiniens aussi. Donc on s'amuse comme des petits fous, on peut échanger, etc. Et il me dit, mais par contre, tu vois celui-là, là, sur le trottoir, jamais il montera dans mon taxi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il me dit, mais lui, il est armé, lui, il me déteste vraiment. Lui, s'il monte dans mon taxi, j'ai un geste maladroit, il croit peut-être que je vais sortir un couteau, ou bien on va pas s'entendre, ou on va dire, je vais dire une phrase qui lui convient pas, je suis en danger. Et il me dit, tu vois, lui, il me l'est montré. Et donc, tout le monde sait qui est tout le monde. Tout le monde a une espèce de sixième sens de ce qui va se passer, enfin. Et ça, bon, c'est vrai que si on débarque dans un pays sans ces clés de connaissances dont je vous parlais, on peut très bien, bon, on voit rien, on passe à côté. Et c'est ce que j'ai trouvé passionnant. Voilà, mes impressions, c'était tout ce que je m'attendais qu'on allait me dire et que je vais vous. Et puis c'était pas ça. La réalité n'était absolument pas ça. Ce que je croyais qu'on allait me dire, ou que j'avais prévu qu'on allait me dire, eh ben non, on tombe assis parce qu'on ne s'y attendait pas. On a sans cesse des chocs.
Une dernière question juste sur ce petit chapitre. Anne, comment ça se fait que ces gens dont vous avez parlé, qui s'échangent, qui ont déjà des contacts, même invisibles, etc., cette force dont nous, on entend très peu parler jusqu'ici et que vous avez senti et rencontré là-bas, comment ils se font connaître? Comment leur voix est portée? Est-ce que, par exemple, au niveau du gouvernement israélien, au niveau de la presse israélienne, ces gens-là ont une presse? C'est seulement jusque chez nous que ça n'arrive pas, ou chez eux ça arrive?
Non.
Est-ce que les Palestiniens, qui aussi ont des rencontres avec des Israéliens, peuvent se faire entendre, y compris parmi leur propre peuple? Comment ça se passe?
Disons que du côté israélien, c'est plus ouvert, parce qu'il y a une espèce de démocratie démente, une liberté totale, une démesure dans la démocratie, presque, entre eux, hein, je dis bien. Par exemple, Leibovitch, c'est une grande figure en Israël, c'est un type extrêmement connu. À la télévision, je crois, il y a quelques mois, il a donné des ordres de désobéissance au peuple israélien. C'est-à-dire, il a demandé qu'on refuse de les servir dans les territoires. Il a fait un appel pour que les gens, si vous voulez, se démobilisent à la télévision. Hein. Et quelques temps après, il y a eu une grosse polémique parce qu'on lui a donné le prix Israël pour son œuvre. Vous voyez, ça existe aussi. Mais tout est vrai et son contraire. Alors, il y a une espèce de folie. Par exemple, l'armée, j'ai écouté la radio de l'armée. C'est une radio très, très, très populaire qui diffuse 24 heures sur 24 en Israël. Ou des discours, mais ici ne serait pas toléré une minute, je veux dire, alors qu'on n'est pas en guerre. Enfin, c'est des discours de désobéissance et puis des discours de paix. En ce moment, alors, c'est les grands. Enfin, on se retrouve presque mai 68, enfin, je ne sais pas, vous voyez, la période hippie, les fleurs, la paix. Mais oui, il y a des chansons, je me les suis fait traduire par un militaire israélien, donc gradé dans l'armée.
Ils les connaissent.
Gradé
dans
l'armée. Mais qui entendent ça à longueur de journée? Il faut, nos ennemis vont devenir nos amis, il faut leur tendre la main, etc. C'est la radio de l'armée. Qui est la radio populaire. Vous êtes surpris tout le temps, même si vous avez bien creusé le sujet, vous lisez la presse, vous suivez. Puis tout d'un coup, vous apercevez que la réalité est d'une complexité qui vous dépasse totalement, où les choses que vous croyez rouges sont vertes. Ou, enfin, par exemple, cette radio de l'armée que j'ai écoutée assez attentivement m'a laissé. Enfin, dans quel pays est-ce qu'on tolérerait ça? Par exemple, devant la résidence de Rabin, là où il habite, en même temps, il y a des gens qui manifestent. Bon, c'est sans arrêt, ils manifestent tout le temps. Hein. Jérusalem, de toute façon, manifeste tout le temps. Il y a toujours une manifestation quelque part où, par le bruit bouche à oreille, tout d'un coup, il y a 5000 personnes. Hein. C'est comme ça, tout se fait comme ça. Il y a en même temps les gens, les colombes. Ils sont là, ils campent, ils vous distribuent des espèces de badges colombes. Et ils vous parlent de leur de ce qu'ils font pour la paix. Ils vont manifester pour se faire sortir de prison un Palestinien. Hein. 2 mètres plus loin, exactement sur le même trottoir, il y a les colons juifs qui disent « mais on va les tuer, on va les massacrer ». Et puis entre eux, il y a l'armée qui les sépare un peu parce qu'ils s'insultent. Parce qu'en Israël, on s'insulte énormément. On s'insulte au Parlement. Il faut voir à la télévision les retransmissions du Parlement, de la Knesset, mais les gens se disent des pires insanités. Et j'ai interviewé donc un homme qui... J'ai essayé de comprendre cette violence verbale. Et cette violence verbale, est-ce que c'est un exutoire au fait qu'entre eux, je dis bien entre eux, entre juifs, on ne se bat pas, enfin on ne se tue pas. Alors qu'il y aurait eu mille et une raisons, et il y en a toujours, puisqu'en ce moment, vous imaginez l'enjeu,
les affrontements
qu'il y a. Mais c'est verbal, on peut se dire. Alors j'ai demandé, est-ce que finalement l'exutoire, c'est pas contre les Palestiniens? Peut-être un peu, peut-être un peu. Et peut-être cette violence, elle, alors là où elle est du côté palestinien et israélien, identique, c'est dans la manière de conduire. C'est là, je crois que c'est là où se font les plus grands massacres, c'est sur la route. Je crois que ça a coûté bien plus cher que toutes les guerres. Les gens klaxonnent sans cesse, doublent à droite, à gauche, sont complètement fous. Je ne sais pas, là, c'est un espèce de défoulement, de défouloir, une folie collective. Sur les routes, il n'y a plus de quartier. Là, on est plus civilisé. Voilà, sur la route, il faut la voiture de devant, si on pouvait l'écraser, lui passer dessus, même s'il y a un feu rouge, les gens sont arrêtés, ben on klaxonne quand même, on essaye quand même de passer sur le trottoir pour doubler. Ça, c'est une folie, il faut s'y faire. Il faut, d'ailleurs, on roule en ce moment phare allumé de jour comme de nuit, pour essayer, comme je crois en Suède ou en Norvège, voilà, d'éviter les accidents. Vous voyez, il y a une autre folie là. Est-ce que cette espèce de tension tellement forte chez les gens de part et d'autre, qui se termine souvent aussi en bain de sang et en attentat, on le sait bien, est-ce que cette tension s'exprime aussi de cette manière-là, c'est-à-dire au volant de sa voiture, sur tous les hommes?